Dans vos contre-désirs. Dans les différents livres ou conférences qui traitent du sujet de la réussite, de l'échec ou du bonheur, j'ai toujours trouvé qu'il manquait un point. Je suis très attaché au réalisme des choses et je ne vous livre que des conclusions que j'ai dû comprendre pour moi, que j'ai expérimentées et que j'ai pu transmettre. C'est peut-être pour cela que certains chapitres peuvent parfois paraître étonnants ou aller contre certains principes connus. Je suis pragmatique, je me laisse inspirer par la science et par l'expérience. Et c'est justement ce vécu qui me permet de vous raconter ceci. Malgré toutes les avancées que je pouvais faire dans ma souplesse mentale, dans mon acceptation de ce que l'on appelle à tort l'échec et dans mes vrais désirs grâce au mantra, il y a quelque chose qui persistait. Une sorte de goût d'impuissance face à certaines situations récurrentes. Comme des nuages sombres, ces situations revenaient de façon insistante dans ma vie. Pourquoi existaient-elles? Je ne le savais pas trop. Après y avoir longuement réfléchi, j'ai conclu qu'une nouvelle fois, mon cerveau faisait un déni de certaines vérités. Des choses, des situations et parfois des personnes étaient à l'antithèse de ce que je désirais atteindre, pour moi, dans ma sérénité. Elles allaient contre mon bonheur au lieu d'y contribuer. Mais, pour des raisons multiples, je m'en accommodais et je faisais mine que c'était « normal » ou « obligatoire ». Il n'en est rien. Pour déconstruire cela, vous devez commencer par faire une liste de ce qui nuit à votre bonheur, à votre ligne de conduite. Écrivez ce que vous ne désirez plus dans votre vie. Cela peut aller du simple « je ne veux plus dire oui à tout en permanence » à « je ne veux plus de ces voisins qui m'empêchent de dormir chaque nuit ». Peu m'importe ce que vous mettrez dans votre liste, car je sais qu'elle sera sincère pour vous, dans vos ressentis. Fixez sur le papier tous ces éléments. Prenez plusieurs jours s'il le faut. Le fait de les écrire va les faire exister pleinement pour votre cerveau car ils sont là, noir sur blanc, dans le réel. Il ne peut plus les nier ou s'en accommoder. Relisez la liste pour voir si tout est important au point de nuire à votre bonheur. Mais faites attention, nous avons un réflexe mental qui consiste à éviter la dissonance cognitive. La dissonance cognitive est provoquée par des pensées ou des actions en contradiction. Par exemple, je souhaite avoir un corps plus sain, j'ai décidé de faire du sport, mais je n'y vais jamais. Le cerveau ne supporte pas que deux systèmes de pensée ou d'attitude entrent en conflit de logique. Cela crée une tension interne qu'il doit évacuer immédiatement. Pour cela, il va avoir recours à la justification. Pour retrouver un équilibre interne, le cerveau va affaiblir l'une des deux cognitions pour qu'elle ne soit plus dissonante en trouvant des justifications plus ou moins valables. Dans mon exemple du sport, votre cerveau va vous souffler que vous n'avez vraiment pas le temps en ce moment, que pour le moment vous êtes en pleine forme, que vous faites attention à ce que vous mangez, c'est déjà pas mal, que vous attendez que quelqu'un vienne avec vous car la personne initiale vous a lâché, etc. Mais la finalité, c'est que vous vouliez aller au sport, vous, et que vous n'y allez pas. De la même manière, lorsque vous allez relire votre liste des choses que vous ne désirez plus dans votre vie, votre cerveau va trouver des bonnes excuses à leur existence actuelle. C'est normal. Ne vous faites pas avoir et faites preuve de recul pour garder dans la liste tout ce qu'il est important de supprimer à terme pour votre bien-être. Dans son traité « L'art de la guerre », Sun Tzu dit « Celui dont l'avance est irrésistible fond sur les points faibles de l'ennemi. Celui qui, lorsqu'il bat en retraite, ne peut être poursuivi, se déplace si promptement qu'il ne peut être rejoint. » Voici les points faibles de votre bonheur, votre liste. Vous avez identifié les points faibles, maintenant vous devez les supprimer de votre vie, progressivement, un par un. Mais pour que cela soit efficace, vous devez déplacer votre manière de penser de sorte que ces choses que vous ne désirez plus ne réapparaissent pas dans votre vie. Vous allez mener un combat pour votre bonheur, le plus beau des combats. Dans la communication bienveillante. Si le bonheur est caché dans votre cerveau, le chemin pour le trouver ne doit pas être obstrué par de la colère, de la tristesse ou de la frustration. Ces sentiments naissent aussi lors de nos relations avec les autres. Pourquoi ? Parce que même si nos intentions sont bonnes, notre manière de communiquer génère souvent des incompréhensions. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre manière de parler dont les bénéfices iront à la personne qui s'exprime autant qu'à la personne qui écoute. La communication non violente, appelée communément la CNV, a été pensée et mise au point par le psychologue américain Marshall Rosenberg. Le terme « non violent » fait directement référence à la philosophie de Gandhi. Cela permet de communiquer avec autrui sans nuisance, c'est-à-dire sans lui nuire et par extension sans vous nuire. Pour être honnête avec vous, la définition exacte de la CNV par son créateur, Marshall Rosenberg, est « le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant ». J'ai pu lire mon premier livre sur le sujet au collège, en 5e, dans un ouvrage que j'ai trouvé par hasard au CDI, où je passais une grande partie de mon temps libre. Je l'ai immédiatement appliqué et j'ai affiné les concepts à mon propre compte. C'est ainsi que j'ai pu voir que, sans rien attendre des autres en retour, la communication non violente nous protège de nous-mêmes. Elle fonctionne comme une sorte d'auto-empathie qui enveloppe nos émotions spontanées. Moi qui recherche toujours des méthodes faciles à mettre en place et non contraignantes, pour être certain de les tenir dans le temps, j'avais trouvé une pépite. Vous pouvez appliquer la CNV pour communiquer avec les autres, mais aussi pour communiquer avec vous-même, pour clarifier mentalement une situation, par exemple. Au-delà d'un état d'esprit, la communication non violente se fait en 4 étapes précises. Première étape, observer les faits. Il s'agit d'éviter de faire intervenir un jugement subjectif dans notre communication et de se contenter plutôt d'observer les faits tels qu'ils sont. Souvenez-vous de l'histoire du vieil homme et de son cheval blanc que je vous racontais plus tôt. Vous pouvez à partir de là exprimer vos observations en prenant soin de ne pas le faire sous forme de jugement. Par exemple, voici un jugement. Tu n'as vraiment aucune volonté depuis que tu t'es inscrit au sport. Et voici une observation. Tu n'es pas allé au sport depuis un mois. Deuxième étape, exprimer ses sentiments. Cette chose que l'on a tendance à ne pas faire. Ne gardez pas vos sentiments pour vous. Dans ce livre, vous avez appris l'importance de ne pas faire des suppositions inutiles en collectant des données. Mais de votre côté aussi, vous pouvez partager des données avec les personnes avec qui vous communiquez. Ainsi, ces dernières vous comprendront mieux. Attention de ne pas confondre l'expression de ce que vous ressentez avec vos hypothèses et vos suppositions. Par exemple, voici une hypothèse. Je ressens de l'irrespect quand tu salis la cuisine que je viens de nettoyer. Et voici un sentiment. Je me sens triste, ou en colère, ou d'autres émotions. Pour le psychologue Rosenberg, il y a de fortes chances qu'en utilisant les pronoms « tu » ou « vous » dans cette étape, vous soyez dans l'hypothèse, la supposition ou le jugement probabiliste. Troisième étape, exprimer les besoins. C'est le moment de laisser s'exprimer l'autre sur ses besoins. Vous devez l'accompagner dans cette démarche. Lui demander comment il se sent, ce qu'il ressent, ce qu'il souhaite. Dans toutes vos communications, vous pouvez insérer cette étape et être à l'écoute de la réponse. Quatrième étape, demander les actions que l'autre souhaite ou que vous souhaitez. Il ne faut pas confondre demande et exigence, même si elles peuvent parfois s'exprimer avec la même phrase, les mêmes mots. Cette étape permet de transformer votre besoin initial, par exemple, en une demande concrète qui prend en compte ce que vous avez collecté dans l'étape précédente. Pourquoi votre demande sera prise comme telle? Parce que vous avez aussi envoyé des données à l'autre personne à la deuxième étape. La demande se fait souvent sous forme de questions. Mais votre demande n'étant pas une exigence, cela veut dire que vous devez être prêt à accueillir un non de la part de l'autre personne. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que vous exigiez. À partir du moment où vous restez dans une position empathique lorsque la personne vous formule un refus, alors vous êtes toujours dans la communication non violente. Enfin, pour éviter tout quiproquo, vos demandes doivent être positives. Exemple, j'aimerais que tu mettes la vaisselle dans le lave-vaisselle, plutôt que je veux que tu arrêtes de mettre la vaisselle dans l'évier. Voici une clé. Formulez une demande claire, explicite, simple, et précise. vous favoriserez la finalité positive de votre demande. Dans l'élément le plus important de votre vie. Nous vivons dans une société assez étrange. Nous prenons de plus en plus en compte l'autre et prenons soin de chérir le respect dû à tous. Nous prônons l'entraide. Nous mettons de l'argent dans des cagnottes. À côté de cela, l'humanité des pays riches dont nous faisons partie est décrite comme égoïste, avec une pseudo-vie sociale basée sur les réseaux sociaux mais manquant de vraies relations. Comment se situer au milieu de tout ça ? Quelle est la bonne conduite à adopter pour être aligné avec les autres et avec soi-même ? Je crois que la réponse se trouve chez Descartes. René Descartes était un philosophe français du XVIe siècle, en plus d'être mathématicien et physicien. Il a créé ce que l'on appelle aujourd'hui la philosophie moderne, différente de la philosophie contemporaine. Rationnel, il s'inspire des sciences modernes et de la méthode mathématique pour construire sa pensée. Dans son œuvre « Le discours de la méthode », Descartes cherche un ancrage sûr pour bâtir la connaissance. Il cherche un axiome irréfutable. Descartes utilise alors deux méthodes de pensée, l'une active, le doute, et l'autre passive, le mauvais génie. Pour le doute, il décide de remettre en cause toutes ses opinions, toutes ses connaissances et tout ce qu'il connaît ou croit connaître du monde. Il analyse ce qu'il reste, lui. La seule chose qui subsiste au doute, c'est le sujet qui doute. Il écrit « Donc si je doute, je pense, et si je pense, je suis ». Pour le génie, il imagine qu'une puissance extérieure, mauvaise, se joue de lui et trompe ses sens et ses perceptions, un peu comme lorsque l'on rêve et que l'on croit que tout est réel tant que l'on est dans le rêve. Là encore, la seule chose qui reste vraie dans l'illusion est la pensée de celui qui est illusionné. Il écrit « Car il est de soi si évident que c'est moi qui doute, qui entends et qui désire, qu'il n'est pas ici besoin de rien ajouter pour l'expliquer. » Et c'est ainsi qu'est né ce que l'on appelle le cogito, pour le latin cogito ergo sum, « je pense, donc je suis ». Une véritable révolution philosophique que ni Kant, ni Spinoza, ni même Sartre ne remettra en question. Voici une clé. La seule certitude que vous pouvez avoir du monde est celle que votre pensée existe. Les émotions que vous vivez sont réelles, votre bonheur aussi. Vous êtes l'élément central de votre existence et vous ne serez jamais sûr de la réalité dans laquelle vous vivez. Votre cerveau lui-même vous le prouve à chaque illusion d'optique ou auditive que vous percevez. Partant de ce constat, vous devez considérer que vous êtes responsable de votre pensée. Vous êtes responsable de vous faire passer en premier. Cela ne veut pas dire devenir égoïste et encore moins autocentré. Cela signifie vivre votre vie en pleine conscience, prendre soin de vous avant de chercher l'approbation des autres. Vous serez aimé des uns, vous serez détesté des autres, mais ces émotions et ces pensées ne vous appartiennent pas car elles n'émanent pas de vous. Pourquoi donc vouloir les changer ou les confirmer à tout prix? Simplement pour nourrir l'ego ou le sujet, comme l'appelle Descartes. Mais vous qui lisez ces lignes, êtes comme moi. Vous voulez juste vivre votre bonheur dans un mental calme, souple et heureux. Prenez soin de vous, de vos pensées, de vos émotions. Vous êtes la solution de votre bonheur, ne vous oubliez plus.